problème, c'est...
Bon, bah regardez, moi je suis dans ma chaussure, et si ma chaussure... Je fais du 42, je suis hyper bien dedans, c'est la bonne pointure.
Si dans 2 heures, je suis coincé dans la même chaussure avec un panard qui fait du 57... C'est ça, c'est ça. Donne une petite idée des proportions, mais... Voilà. Et, revenons à mon histoire en tant que telle... J'étais tellement inquiet d'apprendre trop tout ça, j'avais plutôt bien calculé. Plutôt, genre 2 heures avant de sortir du restaurant, j'avais pris discrètement la pilule, et j'avais tellement bien calculé que pour la raccompagner vers la bouche de métro, on passait devant chez moi. Moi j'habitais chambre de bonne, hein, vous voyez, quand on démarre et tout. Je dis, c'est mon immeuble, c'est chez moi. Et là, j'utilise une technique, bon, je pense, de séducteur, assez élégante. Je lui dis, écoute, est-ce que tu montes boire une dernière tisane? Et là, elle me dit, oulala, j'aime pas la tisane. J'ai dit, oulala, c'était pas la question. Et elle me dit, mais non, non, je dois rentrer parce que je me lève très tôt demain. Mais alors, il y a un grand sourire comme ça, généreuse. Elle me dit, mais quelle belle soirée j'ai passée. Elle me prend presque dans les bras. Elle me dit, tu te rends pas compte, c'est vraiment une soirée merveilleuse, il faut qu'on se revoie. Bon, et moi, j'ai les 2 derniers neurones qui étaient restés en haut. Qui se tape dedans, quoi, si vous voulez. Et elle sent que je piche pas ce qu'elle raconte. Et elle me dit, non, mais tu te rends pas compte à quel point c'est un bonheur pour moi de pouvoir rire, m'amuser, discuter avec quelqu'un où je le sens, il n'y a pas d'ambiguïté. Et là, mon conseil, dormez sur le dos. Deuxième fantasme, le sadomasochisme. Grand silence. J'ai l'habitude, je gère, c'est tous les jours pareil. Donc quand on dit sadomasochisme, on se met au fond de son siège, comme si, voilà, très loin de cette idée. J'en ai jamais entendu parler. Je détends toutes les salles avec un chiffre. Vrai chiffre, homme-femme confondu. 50% des gens sont intéressés. Ça ne veut pas dire que vous avez pratiqué, mais 50% des gens sont intéressés de près ou de loin par le sadomasochisme. Voilà. Bon. Donc si ça vous dégoûte, si c'est pas vous, il n'y a pas de problème. Mais regardez à votre gauche, regardez à votre droite, statistiquement, il y en a un des deux qui est intéressé par le dos. Voilà, c'est... Et j'espère que mon 15 ans, il n'est pas entre son père et sa mère. Mais... c'est qu'il va très bien savoir lequel des deux c'est. Mais bon. Non, en plus, ouais, soyez détendus, parce que c'est vraiment un truc qui est compliqué à pratiquer en couple, le sadomasochisme. Tout simplement parce que là encore, il y a spécificité homme-femme. L'homme est tout à fait disposé à payer pour se faire humilier, insulter, gifler, mais en aucun cas, il veut que ce soit sa femme qui le fasse. Elle qui comprend pas, parce que moi, je crône dans ta tronche, mais je te le fais gratos. Et donc il faut aller chez une professionnelle. Et je m'étais dit à l'époque, une fois dans ta vie, vas-y, t'auras l'air moins con, tu seras. Voilà. Et donc on va, voilà, je vais vous expliquer tout de suite que le premier truc très violent, c'est le prix. Mais j'avais pas du tout prévu ça, et à l'époque ça fonctionnait pas comme aujourd'hui, hein, donc il a fallu faire des choix. J'ai dit, c'est pas grave, cet été on ira pas à la Grande Motte, mais il fallait choisir. Et j'étais très content de mon choix, si vous voulez. En plus, tous les jours qui précédaient, j'étais déjà excité à l'idée, je me projetais l'idée de qu'est-ce qui allait se passer, tout ça. Et puis arrive le moment, et je suis pas déçu une seconde, parce que j'arrive, elle ouvre la porte et... magnifique, elle me regarde comme ça de haut, elle me dit, tu vas passer un moment exceptionnel. Moi je tremblais comme ça, j'espère madame, j'espère, parce que moi j'adore la Grande Motte. Et sorti tout seul, et elle me dit, tu vas découvrir le vrai toi-même, tu vas faire des choses que tu n'as jamais faites. Je dis, bah oui, j'espère, vite quoi. Elle me dit, tu vois le tablier là, je vois, et tu vas le prendre, j'étais déjà là-bas, tu vas l'enfiler, hop, tout de suite enfilé, et tu vas aller faire ma vaisselle. "50 nuances de pec citron". Et je peux vous dire, j'étais surpris, parce que moi, toute la semaine qui précédait, pour me mettre bien dedans, j'avais relu tout le Marquis de Sade. eh ben, je dois avoir une édition où il manque des chapitres, parce que toute cette partie sur la plonge, alors je sais pas d'où elle est arrivée, et donc voilà, j'ai bossé. Je peux vous dire que c'est douloureux et humiliant, ce qui est exactement ce pourquoi j'avais payé. Et donc voilà, je suis reparti un petit peu déçu chez moi, et en arrivant, qu'est-ce que j'ai fait ? Ma vaisselle. Mais troisième et dernier fantasme, alors ça, c'est plus gênant, je vais aller vite dessus, c'est encore un échec, mais ces trois échecs m'ont aidé, je pense, après, à être plus détendu dans ma sexualité. Ne me demandez pas pourquoi j'ai envie de ça, je ne sais pas non plus, c'est une espèce de pulsion comme ça, irraisonnée. Je m'étais dit, fais-le avec élégance, je m'étais dit, tu demandes, si elle veut bien, c'est chouette, si elle veut pas, c'est pas grave. C'était la zoophilie. Et j'ai uriné sur la femelle porc-épic. Elle s'est secouée. Sexualité dans le premier spectacle, je me suis dit dans le deuxième, essaye, mais c'est compliqué, c'est assez intime. Dans le premier, j'avais beaucoup parlé d'art. Et je me suis dit, peut-être certains vont revenir parce qu'ils ont aimé ce moment. Et je me suis dit, bah, c'est super, on va terminer ce spectacle comme une sorte de rappel que je vous imposerai, comme ça on s'évite les problèmes. Mais en parlant d'art, parce que qu'est-ce qui a inspiré les artistes ? Deux choses, l'amour et la mort, bien sûr. Donc je peux vous montrer des œuvres, des tableaux, des créations, certaines que vous connaissez, d'autres que vous allez découvrir. Je peux pas être exhaustif parce qu'il y en a trop, mais je peux être chronologique. Et donc on va voir aussi comment ça a pu évoluer. Et on va commencer tout de suite par celui qui peut-être est le plus important pour moi parce qu'il a été peint dans mes régions. C'est un primitif flamand qui a peint ça, c'est Bruegel. Et le titre de l'œuvre, c'est Le triomphe de la mort. Il est au Prado, il est magnifique ce tableau. Et Bruegel a voulu représenter une cinquantaine de façons différentes de décéder. Dans son temps, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures à regarder ce tableau, à se poser énormément de questions. La première, en général, c'est « Mais où est Charlie ?» C'est hyper perturbant. Je sens, ça cherche. On va vous aider, parce que sinon vous allez rester keblo dessus. Tu peux mettre la loupe, il est dans le bateau. Je vais faire un truc pour Bruegel que je ne ferai pas pour les autres, mais qui est vrai pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on a été inspiré à un moment dans son œuvre, par la mort, qu'on ne peut pas être inspiré à un autre moment par la vie. Voilà, c'est important de dire ça, on a tous cette dualité. Je vais prendre un tableau pour illustrer ça, de Bruegel encore, évidemment, La Moisson. La Moisson, par ses couleurs, par sa thématique du renouveau, c'est un tableau, bien sûr, sur la vie. La Moisson qu'il a hésité à appeler « Il y en a trois qui bossent » et les autres en scoop à une et... On reconnaît évidemment la métaphore. Ici, vous avez tout ce qui est profession libérale. Et ici, vous avez tout ce qui est la CGT cheminot en train de réfléchir à une bonne date. Mais... Ok, je sens un petit peu la tendance politique dans la salle. Ok, d'accord. Pendant qu'on peint des vrais gens, dans mes régions, à peu près à la même époque, et c'est assez marrant de se dire ça, en Italie, la peinture, elle est tout autre, techniquement déjà, mais aussi par les inspirations. C'est plutôt la religion, c'est plutôt, ben voilà, ici c'est la religion, parfois c'est la mythologie, ici, évidemment, le Caravage, magnifique, c'est presque une photo, c'est très très beau, la mort de la Vierge Marie, j'explique pas, je crois que tout le monde connaît, hein, la Vierge Marie, l'inventrice du « tu vas pas me croire ». Arrêtez, non, et vous, ça vous fait marrer, mais... Joseph, il vient d'avoir l'info à ce moment-là. Hein, donc Avançons d'une centaine d'années, rendons-nous en Espagne. Le grand maître espagnol de, justement, l'époque d'après, c'est Goya. Et ça, c'est magnifique, c'est violent, c'est même violent. Là, à nouveau, c'est mythologique. Saturne dévorant ses enfants. Saturne, c'est... excusez-moi, parce que là, je suis un peu perturbé. Juste parce que je pense à autre chose. Deux secondes. Nico, juste à la technique, parce que sinon je vais oublier. Tu peux ressortir la SWAT ? Parce qu'on a été cons. Il y avait une opportunité. On peut les manger. Voilà, comme ça c'est noté. Je reviens. Je reviens à notre ami Saturne. Saturne, en fait, très simplement, c'est un dieu et il a entendu un oracle. Un oracle qui lui a dit « Attention, tes enfants voudront prendre ta place. Il te faut les manger. » Voilà. Bon, c'est un oracle que n'a jamais entendu Jean-Marie Le Pen. Voilà, c'est, ça marche, ça marche, ça marche. Passons à la peinture française, allons au Louvre. Le plus beau des tableaux du Louvre, pour certains, et c'est pas du tout la Joconde, c'est celui-là, c'est le Delacroix, il est magnifique. La mort de Sardanapale. Sardanapale, il est là, c'est un roi assyrien. Qui sait qui va mourir demain? Parce que les ennemis ont encerclé la ville, et demain ils vont rentrer, ils vont le capturer, c'est comme ça qu'on règle les comptes à cette époque-là, et ils vont le tuer. Il veut pas mourir dans les mains de l'ennemi, il décide de réunir dans sa chambre tout ce qui lui a donné du plaisir. Ses femmes, ses chevaux, ses esclaves, son or, il va tout brûler, il va tout brûler. Autant le tableau est magnifique, la thématique est ultra violente et elle va à l'opposé, en tout cas moi, de ma relation à la postérité. Moi j'ai toujours dit à ma compagne, s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est très triste, mais pleure 24 heures. À la 25e heure, tu penses à moi et tu sors, tu chantes, tu danses, tu ris, tu bois, tu t'envoies en l'air avec le premier type qui pince, plusieurs en même temps, c'est open bar, c'est pour Bibi. Ouais, évidemment, ça semble difficile à dire, mais moi, je le pense sincèrement. Et donc, je trouve ça chouette de l'avoir dit. Et après, on a eu un souci, parce que moi, un jour, j'étais parti en tournée, et je perds le téléphone. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne connaît plus par cœur le numéro, même des gens qu'on aime très fort. Et donc, j'arrive 4-5 jours après à Paris, elle me voit, elle fait « Mais je croyais que t'étais mort !» Allez, passons à des peintres plus contemporains, Paul Cézanne. Paul Cézanne avec ce magnifique tableau qui nous rappelle qu'au fond, 5 fruits et légumes par jour, c'est pas une solution. La thématique du squelette qui est assez intéressante et qui revient à cette époque-là avec un ami, un collègue de Cézanne, avec Van Gogh, avec ce tableau-là qui est magnifique, que j'ai appelé Fumez-tu. C'est pas le plus connu de Van Gogh, mais parce que, tout simplement parce que c'est une cigarette évidemment qu'il a dans la bouche. Van Gogh lui-même fumait plus de l'herbe. Non mais je balance pas, on le sait et puis ça se voit. Ça se voit quand Van Gogh peint un ciel comme ça, tout le monde dit waouh, c'est magnifique, quelle inspiration, ça tourne. Non, bah non, c'est ça qu'il voyait. Voilà, c'est voilà. À un moment, il faut le dire aussi. Le plus grand peintre du siècle précédent pour certains et pour de toute l'histoire de l'art pour d'autres, c'est Picasso. Et toute la période bleue de Picasso, c'est la mort. Quand il ira mieux, il va peindre en rose. Mais à ce moment-là, il est à Paris, début du siècle précédent, personne ne le connaît, il est ruiné, mange pas tous les jours à sa faim, il vend pas un seul tableau, et il vient de perdre l'un de ses amis les plus proches. Et donc tout lui vient en bleu, assez emblématique ce tableau-là d'un homme qui souffre, l'asset, un homme qui souffre sans doute parce qu'il n'y a rien dans son asset, et oui, mais il y a des enfants aussi, hein, de temps en temps. Là, à côté, c'est le portrait d'une de ses amies, portrait de Suzanne Bloch. Et c'est vrai que, très sincèrement, je pense, quand il lui a offert son portrait, son paresthé ami, hyper longtemps derrière. Et c'est là qu'il s'est dit, si c'est comme ça, les gonzesses, je vais les peindre de dos. Et puis c'est terminé. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Le génie juste après Picasso, peut-être moins célèbre, mais quand même très connu par les amateurs de peinture, c'est Miro, génie espagnol. Miro, dont, beaucoup moins figuratif que Picasso, mais ça, je l'ai vu en vrai, c'est au Grand Palais rétrospectif Miro, vous êtes là devant, ce triptyque magnifique, chaque pan fait 3 mètres sur 5, c'est très fort, vous prenez toute l'émotion, et à un moment vous vous dites, mais comment il a pu nommer cette œuvre magnifique, et à côté du tableau rouge, là, avec le petit point rouge, il y a la vignette, et ben, tout le triptyque s'intitule « L'espoir du condamné à mort ». Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que c'est en voyant ça que Robert Badinter s'est dit « Faut qu'on arrête avec la peine de mort parce que ça les rend débiles, font des lignes et des points. Peine de mort, petite parenthèse, parce que ça c'est intéressant. Souvent les gens me disent, mais t'aurais pu en faire plus sur la peine de mort, parce que c'est dans la thématique. Je n'aime pas parler de ce sujet. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'en parler en groupe, famille, amis, c'est toujours compliqué, parce qu'il y en a toujours un qui est un peu pour. Souvent un téléspectateur de CNews, qui est tendu, il sort de 2 heures de pro, il est tendu. Et en face, jeune lecteur de Libération, un peu énervé, qui l'engueule. Et donc nous, on est là au milieu, là, mais t'es contre aussi, là. Et, enfin, quand je dis on est au milieu, je suis contre la peine de mort, hein, comprenez-moi bien. Je suis contre la peine de mort pour les grands criminels, parce que je vois, je sais, il y a des études, à quel point c'est pas dissuasif. Et je trouve ça beau que l'humain se refuse de tuer un autre homme si bah, il n'y a pas de retombée intéressante pour la société. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et donc j'ai une petite nuance, c'est vrai, parce que je serais plutôt pour la peine de mort, pour les petits délits. Parce que ça, je pense, c'est hyper dissuasif. Celui qui paye pas son ticket de métro. On fait passer ma loi, et le lendemain, le premier contrôleur qui attrape un mec qui a pas le ticket, il le sort, hop, place de la Concorde, on sort la guillotine, JT de 20h de TF1, on te le coupe en deux. Voilà, comme ça. Croyez-moi bien que le lendemain, on a réglé tout le problème de la fraude à la RATP. Hein. Je dis, ah, mais il y en a plein qui va bouffeter, on peut enlever les tourniquets. Bon. Les gens, ils vont dire, donnez-moi un ticket, donnez-moi deux tickets. Si je le perds, non. C'est des petites idées comme ça que je lance, voilà. Viserec 2027. Alors, on arrive au bout, évidemment, de l'histoire de l'art et bien sûr du spectacle. Moi, ce que j'aime, l'art contemporain. L'art contemporain, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les happenings. Parce que ça, c'est intéressant, parce que c'est l'artiste lui-même qui est son œuvre, qui est dans le musée. L'artiste, il est là physiquement, star des happenings. Marina Abramovic, qu'on voit ici à gauche, avec son compagnon de l'époque, ils sont restés 4h30 comme ça, dans la position, dans le musée. Et les gens passaient autour en se disant, mais, qu'est-ce qu'elle veut dire, tout ça, c'est intéressant, c'est fort. Elle, elle a expliqué qu'elle voyait ça comme une expérience sur la confiance. Et c'est vrai, c'est intéressant. Je pense que lui a dû le vivre plus comme une expérience sur le dilemme. Intéressant aussi. Et le plaisir des happenings, c'est quand vous n'êtes pas prévenu. Parce que ça, ça peut arriver. L'artiste arrive dans le musée, poum, il crée. Grande star des happenings, Yoko Ono. 2010, au MoMA de New York, elle débarque. L'esprit un petit peu de l'œuvre. Ça dure 8 minutes 30. Et souvent les gens me disent, mais Alex, quel est le lien de cette œuvre avec la mort? Déjà vers 2h15, hein, t'as très envie de lui mettre un grand coup de pelle, mais... Voilà, regardez-la bien, parce que je vous donne ma théorie. Vous prenez pas, hein, je vous donne ma théorie. Moi, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être pas John Lennon qu'on visait. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et dernière artiste dont je voudrais vous parler, j'aime bien clôturer le spectacle avec elle, parce que peut-être aujourd'hui c'est la plus grande artiste contemporaine en France, c'est Sophie Kahl. Sophie Kahl, très inspirée par la mort, j'espère qu'il y aura encore plein d'expositions que vous pourrez aller voir, très inspirée par la mort, il y avait une grande exposition il y a longtemps sur le décès de sa maman, qui était très belle, très touchante. Dans un autre style, après, elle a fait une grande exposition sur le décès de son chat, et c'était assez impressionnant, parce que bon, là on rigole parce qu'on est dans une salle de spectacle comique, mais quand vous arrivez au musée et que boum, il est là, dans son sarcophage, si vous voulez, mais... Non, il y en a 3-4 qui ont commencé à applaudir, mais je voudrais juste remettre les choses en place, parce que je suis fier de cette blague, c'est pas la question, je trouve qu'elle est bien, mais excusez-moi, ça fait maintenant une grosse heure et demie qu'on est ensemble, moi j'ai bossé comme un dingue pour écrire des blagues sur la pensée d'Heidegger, ok? Et vous, ce qui vous éclate au point d'applaudir pour me couper, c'est sarcophage. Mais non, mais qu'est-ce que ça dit?